beaucoup de personnes vont te dire genre de couleur, black, etc. parce que c'est mal de dire le mot noir. Ce n'est pas mal de dire le mot noir, c'est juste qu'on a rendu tabou et on place le racisme là où il n'est pas.
C'est une stratégie d'évitement et je trouve que dans un pays comme la France, qui est tellement attaché à sa langue, qui est capable d'organiser des débats, de voter des lois, et je trouve qu'en France on a du mal à nommer ce qui est perçu comme une différence, pas seulement la différence, mais la différence qui peut être problématique. Donc je trouve que black, ça participe de ça.
Sinon, dans le langage courant, il y a aussi dire renoir pour éviter de dire noir. En fait, le but de tout ce jeu-là, c'est de ne pas dire noir. Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que dire noir, c'est être raciste.
À l'occasion de l'ouverture de l'exposition Modèle Noir au musée d'Orsay qui expose et interroge l'évolution des représentations du sujet noir dans la peinture de Géricault à Matisse et dans l'œil des photographes comme Nadar. Journée spéciale sur France Culture que nous prolongeons dans cette grande table des idées avec le point de vue de l'historienne afro-américaine Nell Irvin Painter. L'ouvrage de cette professeure d'histoire à l'université de Princeton, spécialiste de l'histoire du sud des États-Unis, est sorti le mois dernier chez nous sous le titre Histoire des Blancs chez Max Milo, collection Voix Libre. Alors que l'étude du génome a montré que la race n'avait pas d'existence biologique, elle retrace dans ce livre une histoire intellectuelle de la blancheur comme construction sociale et politique. Dans un aller-retour permanent entre les États-Unis et l'Europe, elle nous éclaire aussi sur la place des identités raciales aujourd'hui. Nell Irvin Painter, bonjour.
Thank you, bonjour.
Bonjour et bonjour à votre voix française, FDR.
Bonjour.
Pourquoi avons-nous tant de mal, Nell Irvin Painter, à nommer les choses? Pourquoi avons-nous peur des mots, comme on l'entendait en ouverture dans cet extrait du documentaire d'Amandine Gay, Ouvrir la voie?
Yes. Well, I don't know why French people have so much trouble.
Je ne sais pas ce qu'il en est pour les Français. Pourquoi ils ont du mal à prononcer certains mots?
But I can say that in the United States, when I published this book.
Mais je peux vous dire qu'aux États-Unis, lorsque j'ai publié ce livre,
in 2010.
C'était en 2010.
It was difficult for people to use the word white.
Eh bien, les gens avaient du mal à prononcer le mot blanc.
I published a book with the title History of White People.
J'ai donc publié ce livre intitulé Histoire des Blancs.
Is white.
Le livre lui-même a une couverture blanche.
White. And when I gave my talks, my book talks, and my book tour,
et lorsque j'ai présenté ce livre, donné des conférences, systématiquement, la première, la dernière question et toutes les questions, en fait, portaient sur les Noirs.
Because at that point in 2010, the idea of a race in America was that race in America,
en effet, en 2010, en Amérique, la question raciale semblait être cantonnée aux Noirs américains.
Were thought of, or thought of themselves as individuals.
Alors que les Blancs, eux, ne se voyaient pas rassemblés dans une entité, ils se percevaient individuellement et comme des individus.
And that probably holds in France, I suspect.
Et je suppose que c'est un peu de ça dont il s'agit aussi en France.
Mais c'est à l'origine même de ce que vous racontez, cette identité de race, cette identification raciale, elle naît de la différence de l'autre, elle naît donc aussi de notre singularité. C'est comme ça que cette identité raciale s'impose depuis toujours dans les représentations. C'est l'autre qui est différent.
My book is about what scientists said. So they were
Mon livre porte sur le discours des scientifiques, des taxonomistes, des naturalistes. Et ils attribuaient des numéros à certaines typologies, morphologies.
Yeah. So it was partly.
Et ils essayaient de dénombrer le nombre de races. Parfois c'était 2, 3, 5, ça variait. Donc c'est vrai qu'il s'agit de l'autre, il s'agit également de soi forcément. Mais pour établir ce classement en quelque sorte, comme ils s'y sont essayés.
And they ranked the races within whiteness.
Les taxonomistes se sont attelés au classement des différentes races blanches au sein d'une grande race blanche.
Yes. So the idea of how many white races there were.
Donc combien existait-il de races blanches?
That changed over time.
Tout cela a varié au fil du temps, le point de vue des naturalistes ou anthropologues.
Oui, vous racontez qu'aux États-Unis, pendant longtemps d'ailleurs, on ne parle pas de la race blanche, mais des races blanches. Aussi. Et on se construit toujours par rapport aux autres, pour se distinguer et aussi se rassurer. Mm-hmm. Vous citez le sociologue Max Weber et son homme heureux qui a besoin de se convaincre qu'il le mérite son bonheur. Et surtout, il le mérite en comparaison des autres. Yes. Que la nature est du bon côté, que son bonheur est inné, que ce bonheur n'est pas un privilège aléatoire.
That's right. Absolutely.
De l'importance de se rassurer. Il y a un autre mot qu'on a du mal à utiliser ici en France, c'est justement le terme de race. Tout juste, on parle de couleur de peau ou de minorité ethnique. Mm-hmm. Il y a cette prudence du langage qui a aussi une histoire. Je vous propose d'écouter les mots de l'historien Pape Ndiaye, auteur de La Condition Noire.
Le débat sur la race est assez original. En France, on est particulièrement réticent. C'est lié à la fois à l'héritage républicain depuis la Révolution française, où l'on est méfiant à l'égard de particularités individuelles. On pense le citoyen dans une forme d'abstraction politique, débarrassé en quelque sorte de caractéristiques physiques ou même de choix culturels ou religieux. Donc il y a ce fondement qui est méfiant à l'égard des différences finalement. Et puis, il y a aussi, évidemment, l'histoire du XXe siècle. Enfin, l'importance, l'influence du marxisme, d'une manière de penser les inégalités d'abord par le prisme de la classe sociale. C'est très révélateur de la difficulté de la gauche, des progressistes en France, à se saisir de questions qui pourtant permettent de mieux analyser les inégalités de la société française. Et il n'y a pas que la classe. Il n'y a pas que les inégalités générées par l'économie de marché qui permettent de comprendre notre société. Il faut aussi s'attaquer à d'autres formes d'inégalités, les inégalités de genre, mais aussi les inégalités de race, parce qu'il faut bien l'appeler par son nom. Cette suppression risque d'affaiblir le combat antiraciste. On sait bien que cela n'aura aucun effet sur... le racisme qui ne va pas disparaître parce qu'on aura fait disparaître le terme de race. Et donc c'est typiquement l'un de ces grands gestes législatifs pleins de bonnes intentions mais dont les effets seront, de mon point de vue, négatifs.
Alors voilà, ce que reprend Pape Ndiaye, c'est cette longue construction en éliminant le mot.
Oui, c'est très juste ce qu'il dit sur cette construction.
En éliminant le mot race, on s'est dit qu'on éliminerait, qu'on n'alimenterait plus le racisme.
C'est ce qu'on croyait, en effet. On croyait parvenir ainsi. Mais comme le dit Pape Ndiaye, il faut s'attaquer sur tous les fronts, faire tout en même temps, mener tout cela de front.
Même si la biologie a reconnu qu'il n'y avait pas de race, que les races n'avaient pas d'existence biologique.
No biological existence.
But exactement, il n'y a aucun fondement biologique.
The continue of the idea of race is that it is biological.
Mais on continue pourtant de penser que ça a un fondement biologique, que la race est ancrée dans les paramètres biologiques.
C'est ce qui est pourquoi qui continue à défendre cela?
I think ordinary Americans feel that way and perhaps ordinary French people do.
Je crois l'américain lambda et le français lambda aussi sans doute.
Ça permet de se rassurer sur quoi?
Well, it means not having to complicate the world.
Ça veut dire qu'on simplifie le monde. On n'a pas à se casser la tête, on n'a pas à complexifier les choses.
In addition, we now have businesses that will trace, they say, your ADN.
DNA. En plus, maintenant, il y a des entreprises qui prélèvent votre ADN.
Which so you swipe your cheek and you send it off.
On vous fait un prélèvement dans la bouche.
And then it comes back to say.
On analyse votre ADN. Les résultats vous reviennent.
Your ancestors were such a percentage from this country and
et on va vous dire que parmi vos ancêtres, vous avez tel pourcentage qui vient de tel pays, tel autre pourcentage d'un autre pays.
And that is your identity.
Tout est quantifié de la sorte et ça devient votre identité.
It's a complete confusion of culture.
Il y a là une confusion totale entre la culture et la biologie.
Ça, en tout cas, ces recherches-là, on les fait aux États-Unis. En France, je crois que c'est encore aussi interdit.
Good.
Hein, et
excellent, tant mieux.
Et aujourd'hui, se pose aussi aux États-Unis la question du critère de désignation. Quand, par exemple, on veut faire un recensement, comment recenser ? Là aussi, il n'y a pas de consensus pour savoir, dans la multiplicité de ce que seraient les races aujourd'hui, à quel type on appartiendrait. On comprend d'ailleurs à travers ça aussi l'opposition des Français hein, pour les statistiques ethniques, sur la faisabilité déjà même de ces statistiques.
Well, for France, it seems I would hesitate to ask the French government or the French governments.
Dans le cas de la France,
to collect statistics.
J'hésiterais à vraiment presser le gouvernement ou les gouvernements français successifs de relever des statistiques, de faire des recensements sous l'étiquette race, avec cette rubrique.
The etiquette needs to be something that fits in French society.
Car il faudrait que cette étiquette, cette désignation corresponde à quelque chose de réel dans la société française.
Or close enough.
Ou qu'elle s'en rapproche suffisamment, du moins.
Yeah. But it should be able to take account of discrimination, whatever the categories.
Mais il serait intéressant d'en tenir compte au niveau des discriminations, voir un peu plus finement quelles sont les catégories en question.
Exactly. So that we can see the discrimination in jobs or the discrimination.
Parce qu'il faut creuser cette question de la discrimination au niveau de l'emploi, de l'éducation.
Salaire. So that those real inequalities,
les salaires, ces véritables inégalités, comme elles sont matérielles, on peut les identifier et les quantifier.
Since race is such a inflammatory category in this country, maybe it's not the right one. I don't
et peut-être que le mot race, puisqu'il irrite tellement de gens ou que tellement de gens sont très sensibles à l'emploi de ce mot ou pas, bon, peut-être faut-il y renoncer, je ne sais pas.
I really don't know. But I do know that the histories of the United States and France.
Je sais, en revanche, que l'histoire de nos deux pays, les États-Unis et la France, respectivement, sont suffisamment différentes.
That it doesn't suffice to import an American model.
Donc il ne suffit pas, bien sûr, d'importer un modèle américain en France. Cela ne servira à rien. D'ailleurs, la France n'a jamais eu des lois de ségrégation qui séparaient les blancs et les gens de couleur, comme on le disait à l'époque.
However, what is not taken into account in the United States.
Mais ce dont on ne tient pas compte aux États-Unis.
Is the colonial history.
C'est toute l'histoire coloniale.
Which is very important.
Qui compte beaucoup, pourtant.
The anti-Semitic history.
Et puis aussi l'histoire de l'antisémitisme.
Those need to be part of the discussion in France.
Je crois que tout cela doit faire partie du débat en France autour de ces questions.
Nell Irvine Painter, vous signez donc une vaste histoire des Blancs. Vous êtes allé rechercher depuis l'Antiquité la naissance de ce concept. Alors, est-ce qu'il y avait déjà des Blancs dans l'Antiquité ? Vous répondez dans cet ouvrage historique, non. Ni l'idée de race, ni celle de Blanc n'avait été inventée et la couleur de peau ne comportait pas de signification utile. À l'époque, le référent, c'était pas la couleur de la peau, c'était la tribu à laquelle on appartenait. Les Scythes, les Celtes. Les Gaulois.
Yes, and also the level of what the Greeks would call civilization.
Et puis aussi le niveau de ce que les Grecs appelaient la civilisation. Voilà, niveau de civilisation.
No, the ancient Greeks could see physical differences.
Les Grecs anciens notaient les différences physiques entre les différents individus.
Yeah, some people
les différents
were lighter,
peuples. Certains étaient plus clairs de peau, d'autres un peu plus foncés de peau.
But the idea of race, as we think of it as a scientific category.
Mais le concept de race qu'on prend à tort maintenant pour une catégorie scientifique n'existait pas à l'époque.
That's right. It was invented in siècle de lumière.
La notion de race, ce concept a été inventé au siècle des Lumières, au 18e, vers la fin du 18e siècle.
Vous revenez, parce que là vous allez un peu plus vite, mais vous revenez un moment très important aussi, c'est celui de l'esclavage. Vous parliez cette mémoire de la colonisation qu'on peut avoir ou qu'on devrait avoir aussi aujourd'hui en France. Il y a aussi cette période où l'esclavage, qui aujourd'hui nous suggère une différence de race, ça n'a pas toujours été le cas, puisque l'histoire de l'esclavage des Blancs est assez méconnue. On en parlait justement dans cette émission avec l'historienne Catherine Cochry-Vidrovitch et la réalisatrice Fanny Glissant, qui au moment du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage ont remonté les routes de l'esclavage dans un documentaire en 4 épisodes pour Arte. Et elle nous montrait que l'esclavage n'est pas né dans les champs de coton, contrairement à ce qu'on pense, que les premiers esclaves, ce que vous nous racontez aussi, ceux qu'on a pu asservir étaient blancs, ils venaient du Caucase, ils venaient des Balkans, et c'était une traite qui s'est par la suite concentrée, mais bien plus tard, sur le seul continent africain. Est-ce que vous diriez, Nell Irvin Painter, comme l'historienne Catherine Cochry-Vidrovitch, que c'est la traite qui a engendré le racisme et pas l'inverse ?
To make it very simple, yes, I would agree.
En un mot, oui, je suis d'accord.
But something, things that came together in history.
Il y a des éléments historiques qui se sont un peu fusionnés dans l'histoire intellectuelle ainsi que dans l'histoire scientifique. Au 18e siècle, quand l'idée de classifier les gens,
by race or by,
de les classer, catégoriser variety, selon la race ou différentes variantes physiques. Ce moment a coïncidé avec l'explosion de la traite des esclaves transatlantiques de l'Afrique vers l'Amérique.
In which the main slave trade into the wealthy Mediterranean was from Ukraine, Russia, Caucasus.
Alors au
Georgia.
Début, c'est vrai que la traite d'esclaves concernait des personnes venues du Caucase, de Géorgie, etc. Et cette traite tournait autour du bassin méditerranéen essentiellement.
And it was before the scientific investigation of human differences.
Mais cela a précédé ce début d'investigation pseudo-scientifique des différences entre les êtres humains qui a donné lieu plus tard à ce concept de race.
So intellectually, we are living in the wake of this intellectual confluence of an
Donc
a slave trade.
Donc on est toujours dans le sillage de cette confluence intellectuelle.
Of a slave trade on a really monumental level. It was business. It was a really big business.
Et on est passé à cette traite au niveau vraiment presque industriel. C'était massif, ce commerce des esclaves.
And the intellectual, the flowering of the Enlightenment.
Et puis ça a coïncidé donc avec les Lumières.
Si on en revient aux États-Unis, Nell Irvin Painter, vous abordez cette longue opposition entre Saxons et Irlandais. Il faut dire que les Noirs étaient invisibles aussi à cette période-là. Ils n'avaient pas voix au chapitre, ni voix à l'histoire, et ils ne s'étaient pas encore révoltés, donc pas encore fait entendre. Donc les oppositions, le système de domination était aussi inscrit dans cette opposition entre les Saxons, qui étaient purs, et les Irlandais, qui étaient ceux qui arrivaient et qui étaient la minorité mal perçue. Mais là, on parlait déjà de race ou pas?
Yes, this is 19th century.
Oui, parce que là, on parle du 19e siècle.
But black people were not invisible.
Mais
They
les Noirs, ce n'est pas qu'ils étaient invisibles, mais ils étaient privés de tout pouvoir, complètement impuissants.
And they were also in the South.
Et puis, ils étaient surtout dans le sud des États-Unis.
Since I was writing an intellectual history, I was following the intellectuals.
J'ai écrit cette histoire intellectuelle, donc je suivais les intellectuels.
Who were in the north.
Et eux vivaient dans le nord.
And it's there that in the 19th century, poor Irish people.
Et c'est dans le nord que ont afflué au 19e siècle des immigrants très pauvres. d'Irlande le plus souvent. Et puis au début du XXe siècle, ils ont été suivis d'immigrants tout aussi pauvres d'Europe du Sud et d'Europe de l'Est.
And they, in their turn, were racialized.
Et eux, à leur tour, ont été racialisés, bien sûr.
At the same time, Irish people who had benefited from a half century.
Mais dans le même temps, les Irlandais
benefited from half a century for men the vote, which meant they had political power.
Eux avaient un pouvoir politique car ils avaient le droit de vote, du moins pour les hommes, bien sûr,
and
pas pour les femmes.
This was absolutely crucial.
Ça, c'est une différence cruciale.
If in cities like Boston and Philadelphia,
dans les villes comme Boston, Philadelphie, New York,
there were jobs linked to the politics.
Il y avait des emplois qui étaient vraiment typés dans la police, les pompiers. C'était à la fois une question politique et ethnique. Et grâce à cela, ça leur a permis une mobilité économique.
So you can't understand the changes in white race classification.
Et on peut comprendre les changements intervenus dans la classification de ces races dites blanches.
Without understanding the politics and
on
the
peut
money.
Comprendre cela que si on comprend ce qui se passait sur le plan politique et sur le plan économique.
Ce que vous montrez, c'est comment au XXIe siècle, au XXe puis au XXIe siècle, la construction d'un nouvel ennemi va se faire au fil des vagues migratoires hein, du XIXe jusqu'au XXe. À chaque fois, un nouvel ennemi va arriver et va remplacer le précédent qui va finir par s'intégrer dans le groupe majoritaire. Il y a un moment que vous racontez aussi qui est important, c'est celui du Black Power, un moment où la blanchité ressurgit. Mais vous dites c'est une blanchité qui ressurgit uniformisée et renversée. Quel est le renversement qui va s'opérer avec ce mouvement?
To make it very simple, it's Malcolm X.
C'est Malcolm X.
But in a very simple, it's much larger than Malcolm X. And it's a way of talking about
white people. Mais ça va plus loin.
That puts them in one.
C'est une manière de parler des blancs qui les assimile tous dans un seul groupe.
And that was very powerful. Malcolm X was the second.
Ça, c'était très puissant comme notion.
Malcolm on college campuses.
X était le second orateur favori des étudiants sur tous les campus des universités.
So his thought was assez puissant.
Ses conférences étaient très puissantes et influençaient beaucoup de gens. Il a influencé beaucoup de gens sur le plan politique.
White man, the white
et quand
devil.
Malcolm X disait l'homme blanc, le diable blanc,
and he didn't break them down at all. And to,
il ne faisait pas de distinction entre tous ces blancs.
Some white people who said, no,
mais
no,
cela,
no,
c'était
that's
une...
not us. This is in the 1970s.
Réponse, oui, ça c'était dans les années 70, 1970.
They said, oh, we're not white, we're Irish. We're not white.
Et les blancs rétorquaient, mais on n'est pas blanc, on est irlandais, on n'est pas blanc, on est italien, on est grec, on n'est pas blanc.
Invité avec nous jusqu'à 13h30, l'historienne Nell Irving Painter à l'occasion de la parution en français de son essai, ouvrage « Histoire des Blancs » dans la collection Voix Libre chez Max Milo.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Où en est-on aujourd'hui? Pourquoi parlez-vous, c'est le terme que vous employez dans votre ouvrage, Nell Irving Painter, de tyrannie de race aux États-Unis? Est-ce qu'aujourd'hui encore, vous parleriez de tyrannie de la race aux États-Unis?
Again, to simplify terribly, I would say yes.
Là encore, pour beaucoup simplifier, la réponse est oui.
There's a word that circulates in, among feminists.
Il y a un terme qui circule beaucoup chez les féministes.
Intersectionality.
Intersectionnalité.
Yes, which means that you don't just have one identity.
Qui veut dire qu'on n'a pas une seule identité, on ne se réduit pas à une seule identité.
That's right. So you have your gender, you have your class,
il y a le genre, la classe sociale,
you have your
la
sexuality,
religion, les orientations sexuelles, si on est plus ou moins valide, etc.
All at the same time.
Et tout cela conflue.
Et on pourrait aussi parler d'un autre terme qui arrive et qui est celui de transrace. Je vous propose d'écouter un extrait d'un documentaire de Rachel Dolezal, un portrait contrasté qui a été diffusé, documentaire diffusé sur Netflix l'an passé.
L'identité, c'est vraiment un compartiment de la vie chargé d'émotions. C'est profondément personnel et en même temps, c'est quelque chose que tout le monde expérimente. Il faut apprendre à faire avec qui nous sommes. Une amie m'a envoyé ça parce qu'elle a remarqué que j'étais mentionnée dans l'article et aussi dans la chronologie. Je cite, « Les rôles des genres se confondent, les races s'effacent. » Cela fait 6 ou 7 ans. Ça s'est surtout vu en 2015. Il nous a été donné de voir comme nous sommes tous trans, bi, poly, ambi, omni. Je me vois comme noire depuis que je suis toute petite. Ensuite, on m'a conditionnée pour m'en défaire. Puis en 1998 à peu près, on a commencé à me prendre pour une métisse. À partir de 2006, on a commencé à clairement m'identifier comme noir. Les gens ont entendu ça et ça a nourri leur réflexion intime sur la race. Certains se disent transraciaux, d'autres se sentent insultés par ces mensonges.
Voilà, ça a été très controversé ce témoignage aux États-Unis parce qu'elle se revendique transrace et elle met donc la race au même titre que le sexe par exemple dans un domaine culturel et non plus biologique. Est-ce qu'on peut choisir, est-ce qu'on peut affirmer des identités comme elle l'a fait?
I'm going to give you an answer which is very counter to many people on my Facebook page.
J'ai une grande page Facebook où figurent beaucoup de gens. Certains sont noirs, d'autres blancs, d'autres latinos, très mélangés, très multiculturels.
And a few people were absolutely outraged.
Eh bien, quelques-unes de ces personnes ont été outrées par ces propos.
But for me, I am not outraged. For
ce qu'on vient d'entendre, mais pas moi.
Like, people who, in the United States, were against mariage pour tous,
par exemple,
gay marriage.
Aux États-Unis, beaucoup de gens étaient contre le mariage gay.
Saying, well, if gay people can marry, it takes something away from
oh, si
my
les homosexuels marriage. Peuvent se marier, eh bien, ça mine un peu, ça enlève quelque chose de sacré à mon mariage hétérosexuel.
I have been married for 30 years.
Je suis mariée depuis 30 ans.
And it doesn't take anything away from my marriage.
Et moi, ça ne m'enlève rien que des gens homosexuels se marient.
My marriage is just fine. And I think blackness
mon couple va très bien.
Is big enough for people to be in it, especially if they are anti-racist
être
and activist.
Noir, eh bien, c'est assez grand, assez vaste pour accueillir tout le monde, notamment s'il s'agit de militants, d'activistes anti-racistes.
For Rachel Dolezal, her mother was the person who outed her. Who told that she was trying to pass.
C'est sa mère
qui l'a outé.
Qui l'a outé, voilà, qui a fait son coming out à cette place.
I think, parce qu'elle prétendait être noire alors qu'en fait elle était blanche.
To me, it was histoire de famille.
C'était
voilà,
une histoire de famille.
Histoire.
Yeah. Il fallait
But
pas
that
faire.
Shows that race is still a very sticky point.
Mais ça montre combien ça reste un sujet extrêmement délicat, brûlant, chaud, la race.
Je vais vous amener, Nell Irvin-Painter, pour terminer sur le terrain politique avec l'élection de Donald Trump. On a parlé de la revanche de l'homme blanc, mais d'abord, il y a eu cette victoire de Donald Trump et donc cet échec d'Hillary Clinton. Obama avait su parler à tout le monde, ce que Hillary Clinton a visiblement manqué dans sa campagne présidentielle. L'historien des idées américain, Mark Lilla, nous explique pourquoi.
Sa vision de la politique, au moins pendant la campagne, était, comme vous avez dit avant, faire la politique comme si la nation n'était que une série de petites coupes. Donc, quand elle a fait ses discours politiques, par exemple, elle a commencé en disant « Ah, bienvenue mes amis les féministes, bienvenue mes amis des mouvements pour les Afro-Américains, etc. » Et, mais elle a oublié de accueillir la population blanche, religieuse, dans le sud, et les classes populaires blanches. Et donc, chez ces personnes-là, il y a eu un sens de marginalisation. Et au lieu de former une vision pour qui pourrait toucher les gens dans tous ces groupes, elle a fait la politique, pour ainsi dire, de petites pièces.
De segmentation de l'électorat. C'est ça, le
comment Donald Trump, pour vous, Nelly Irving Painter, a réussi à remettre le citoyen blanc américain sur le devant de la scène?
That shows what a problem it was.
Ça prouve que c'était vraiment un problème.
But I must say, I am completely, I disagree completely with Lila.
Mais je suis en désaccord total avec Mark Lila.
Because he's overlooking the history of,
il néglige
of segregation,
so toute that, l'histoire de la ségrégation raciale.
As if somebody were saying everybody's welcome,
c'est comme si quelqu'un disait
would be welcome and gay people would be welcome.
Tout le monde est bienvenu, les noirs, les gays. Or, ce n'est pas le cas.
Say, yes, you too are welcome.
Il convient encore aujourd'hui de préciser oui. Comme si on disait, même si vous êtes noir, même si vous êtes homo, vous êtes les bienvenus.
But also that the groups that are so strongly behind Trump.
Et puis tous les groupes, les partisans qui sont derrière Trump. Bon, peut-être que je ne devrais pas essentialiser, mais en tout cas, on peut dire 35-40% de la population américaine.
For multiculturalism.
Qui n'est pas du tout en faveur du multiculturalisme.
And in addition, there is this long history of white nationalism.
Et il y a cette longue histoire du nationalisme blanc dont Mark Lila ne semble pas tenir compte.
Si le blanc a une longue histoire, et vous nous la racontez dans cet ouvrage, Nelly Irving Painter, aussi dans son opposition, dans ce système de domination entre noir et blanc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'identité de race, voire demain, va prendre de plus en plus d'importance, de place, ou est-ce que cette opposition, ce type d'identité est amené à s'effacer?
Two things, same, both at the same time.
Les deux phénomènes interviendront en même temps. D'un côté, les idées, les notions de race vont perdurer. Car malheureusement, c'est dans le, au fondement même, au cœur de la société américaine, depuis sa création. Mais en même temps, on ne protège plus les privilèges attribués à telle ou telle race, du moins la loi s'y oppose.
By law, but also by people of color not
c'est donc
being
la
able
loi
to vote.
Since qui both intervient, those mais are, beaucoup de gens de couleur ne peuvent pas voter par ailleurs.
Yeah, people of color are voting, and there are no more
de
laws
jours,
to keep people out.
Les Noirs ont le droit de vote, et il n'y a plus de loi qui permette de discriminer telle ou telle catégorie de la population, heureusement.
To separate. And so, already, whiteness is not what it used to be.
Donc déjà, la blanchité n'est plus ce qu'elle était à ce niveau-là, car elle n'est plus protégée par tout l'arsenal législatif qui garantissait la ségrégation.
Merci beaucoup, Nelly Irving Painter.